Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Tension croissante en Libye. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, actuellement en visite dans le pays, s'est dit ce jeudi préoccupé par le risque de confrontation après des mouvements vers l'ouest de troupes loyales à l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Je suis vivement préoccupé par le mouvement de troupes en Libye et le risque de confrontation. J'appelle au calme et à la retenue alors que je me prépare à rencontrer les dirigeants libyens, a écrit M. Guterres sur son compte Twitter aujourd'hui. Au deuxième jour de sa visite dans le pays, qui est dirigé par deux autorités rivales. Face au mouvement des troupes loyales au maréchal Haftar, le chef du GNA, le gouvernement d'Union nationale à Tripoli, Fayez al-Sarraj, a dénoncé dans un communiqué ce qu'il a appelé une escalade. M. Sarraj dit avoir ordonné aux forces pro-GNA de se tenir prêtes à faire face à toute menace. Plus de détails sur la visite du secrétaire général de l'ONU en Libye avec Lionel Gaïma.
Son séjour intervient alors que se prépare la conférence de Ghadames dans le centre de la Libye. Prévue du 14 au 16 avril, cette rencontre doit aboutir à une feuille de route qui ouvrirait la voie à des élections présidentielles et législatives. Une autre conférence à l'initiative de l'Union africaine doit se tenir en juillet à Addis Abeba afin de réconcilier les différentes parties libyennes. La Libye reste divisée entre le gouvernement reconnu par la communauté internationale et dirigé par Fayez al-Sarraj et l'administration rivale basée dans l'est du pays et dirigée par le général Khalifa Haftar. Pour éviter tout risque de confrontation majeure et créer les conditions pour stabiliser la situation en Libye, il est essentiel d'unifier les institutions, a déclaré le secrétaire général onusien mercredi avant de quitter le Caire pour Tripoli.
La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant. Au Burkina Faso, 62 personnes ont été tuées entre dimanche et mardi dans des attaques djihadistes, suivies d'affrontements intercommunautaires dans la commune septentrionale d'Arbinda, au Sahel burkinabé frontalier du Mali. C'est ce qui ressort d'un nouveau bilan annoncé mercredi soir par le ministre de l'administration territoriale. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Il y a eu 62 décès, nous avons 32 morts du fait des terroristes, nous avons 30 qui sont décédés du fait des conflits communautaires, des représailles entre communautés, Kurumba, Peul, Mossi, etc., a affirmé le ministre Siméon Savadogo à la télévision. Les djihadistes ont pourchassé les gens et ont commis des tueries. Les terroristes ont également enlevé 9 personnes qu'ils détiennent, a-t-il indiqué. Dans la nuit de dimanche, des individus armés ont pénétré dans le village de Hamkan, situé à 7 km d'Arbinda, où ils ont assassiné le cheikh, le leader religieux du village, son fils aîné et son neveu. Suite à l'assassinat du cheikh Werem, il y a eu des échauffourées entre les communautés à Arbinda, qui ont entraîné des représailles de part et d'autre, a indiqué le ministre Sawadogo, regrettant une situation déplorable. La situation sécuritaire est telle que personne n'est à l'abri. Un dispositif de sécurité supplémentaire a été envoyé à Abinda, a poursuivi M. Sawadogo. Au Burkina Faso, tout comme au Mali, les tensions dégénèrent périodiquement en violence entre peuples, traditionnellement éleveurs, souvent nomades et musulmans, présents dans toute l'Afrique de l'Ouest et autochtones agriculteurs. Certains membres de la communauté Peul ont rejoint des groupes djihadistes et il n'est pas rare que des populations fassent l'amalgame entre Peul et djihadistes et opèrent des représailles sanglantes sur fond de conflits intercommunautaires.
Toujours concernant le combat anti-djihadiste au Sahel, le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé mercredi qu'il se pencherait dans les mois à venir sur l'avenir de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, visée par une attaque à la roquette hier à Kidal, dans le nord-ouest du pays. Mais dans sa déclaration adoptée à l'unanimité, le Conseil souligne que tout changement concernant la MINUSMA ne devrait pas compromettre la stabilité du Mali. Vendredi dernier, les États-Unis avaient jugé qu'il était temps d'évaluer si une mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali était toujours la meilleure solution au vu de l'insécurité qui continue de régner dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en visite aux États-Unis jusqu'à vendredi. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a exprimé mercredi son soutien au programme de changement du nouveau leader congolais. M. Pompeo a salué le programme du président Tshisekedi, qui est axé sur la lutte contre la corruption, la stabilité et la sécurité, ainsi que le renforcement de la gouvernance et la promotion des droits humains, selon un communiqué du département d'État américain. Pendant sa visite aux États-Unis, le chef de l'État congolais doit être reçu par plusieurs hauts responsables américains, mais aucune rencontre n'est prévue à ce stade entre le président Tshisekedi et son homologue américain Donald Trump. Poursuite de notre série sur la commémoration du 25e anniversaire du génocide au Rwanda, notre envoyé spécial à Kigali, Idriss Fall, s'est rendu à Ndera, dans la banlieue de la capitale rwandaise, pour rencontrer sa fille Mukundwa. Cette jeune femme, aujourd'hui âgée de 32 ans, en avait 7 quand elle a survécu au massacre de 1994. Les milices Interahamwe ont tué sa mère et son frère, et sa fille a reçu des coups de machette et a été abandonnée par ses bourreaux, qui l'ont crue morte. La jeune femme consacre maintenant sa vie à aider les filles mères. Sa Fille Life Organization forme chaque année 50 filles mères à la couture et elles viennent au centre avec leurs bébés. On écoute sa fille Mukundwa au micro d'Idriss Fall.
Je m'appelle Mukundwa Safi. Notre organisation s'appelle Safi Life Organization. Nous enseignons les femmes à coudre avec les machines et à travailler avec les mains.
Et comment est-ce que toutes ces femmes sont venues vers vous?
Nous travaillons avec le secteur et le district. C'est le secteur qui nous donne les bénéficiaires. Ce sont des filles qui ont eu des enfants avant 17 ans.
Est-ce que c'était des viols ou bien c'était comment elles ont eu ces enfants?
Ce sont de différentes catégories. Il y a les violets, il y a l'ignorance aussi. Elles ne savent pas quoi faire avec la pauvreté. Donc, elles peuvent avoir des enfants facilement parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'être à l'école pour bien instruites, pour ne pas avoir les enfants avant le temps.
Vous leur apprenez la couture, après elles font quoi?
Après la couture, elles forment les groupes. Nous les aidons avec les machines. Ils commencent à travailler pour elles-mêmes.
Et la formation dure combien de temps?
La formation prend une année, 6 mois de pratique, 6 mois pour les essayer de travailler ensemble, les donner aussi de différents cours, les droits de base, les éduquer aussi à aider leurs enfants.
Comment est-ce que vous êtes venu cette idée d'aider les femmes?
Pendant le génocide, j'avais 7 ans, mais lorsque j'ai perdu toute la famille, lorsque j'étais à l'hôpital de Kibuye, j'ai promis au Seigneur que si je survivais, j'aiderai beaucoup de personnes que je peux.
Et comment est-ce que vous avez mis en place ça, les bâtiments, les machines?
Lorsque j'étais à l'école secondaire, j'ai donné le témoignage à Kigali Memorial Center. Puis j'ai eu la chance de rencontrer avec beaucoup de personnes, différentes personnes. Il y a une blanche américaine qui s'appelle Devon Ogden. Elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle peut m'aider moi-même. J'étais en 5e secondaire. Oui, je lui ai demandé de m'aider, d'aider les autres. Comme j'avais le fardeau d'aider les autres, donc il m'a aidé d'aider les autres. C'est comme ça que nous avons commencé Safe Life.
À 7 ans, est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que vous avez perdu vos parents pendant le génocide?
Oui, à 7 ans, on est assez grand pour connaître toutes choses.
Ça s'est passé comment?
Ah, nous sommes devenus de Kibuye. Nous étions allés à Stade de Katwaro. Donc, les nerfs sont venus. Ils sont venus, ont tué beaucoup de personnes. J'ai perdu la famille. Mais lorsque nous sortons à Stade de Katwaro, j'étais avec ma mère, avec mon grand frère, que j'ai perdu après 2 jours. Les inélames qui ont tué ma famille, ce sont eux qui m'ont aussi coupé avec les machettes. Donc j'ai servi et connecté, j'étais aussi morte.
Et maintenant vous êtes mariée, vous allez bientôt avoir un bébé?
Oui, je suis mariée, j'ai aussi 2 garçons, bientôt j'aurai un 3e enfant.
Safi Mukundwa, leader de l'association Safi Life Organization, qui aide les filles mères au Rwanda. Et pour terminer, en Ouganda, les forces de sécurité continuent de traquer ce jeudi les hommes armés qui ont enlevé mardi une touriste américaine et son chauffeur ougandais dans un parc national du sud-ouest du pays. Les ravisseurs ont amené avec eux leurs 2 captifs, laissant dans le véhicule qu'ils ont attaqué 2 autres touristes, un couple de personnes âgées qui n'ont pas été blessées et qui ont alerté les autorités. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.